Chapitre 5e. Bertrand de Fonlus dormit fort bien toute la nuit, mais durant la matinée, il ne fit autre chose que penser à mesdames de Frézolles. Quoi qu'on en puisse croire, cette rêverie, dans laquelle il prenait un plaisir considérable, était du domaine de M. Montyon plutôt que de M. de Florian. La philanthropie, non pas l'amour, lui faisait travailler le cerveau. Pour le moment, il ne songeait qu'à mettre un peu de joie dans l'existence de deux pauvres femmes délaissées, n'ayant en vue, pensait-il, d'autre récompense que de les voir sourire. Encore savait-il par expérience que la plus jeune était celle qui souriait le moins. Comme il se rendait aux écuries pour y faire sa ronde quotidienne, il rencontra Guignard, son garde, qui traversait les communs, sa carabine à l'épaule, sous couleur de vaquer à son service. Les mauvaises langues reprochaient à Guignard de laisser beau jeu au braconnage, depuis que la marquise était au château avec Joséphine, sa femme de chambre, et, ce qui était plus intéressant pour lui, avec la jolie Étiennette, coadjutrice cum futura successione et nièce de la précédente. Tout sévère qu'il était sur l'ordre et la discipline, Bertrand ne se demanda point ce que son garde venait garder sous les fenêtres de la lingerie, car précisément il avait besoin de lui. L'homme reçut une consigne donnée à voix basse et tira vers la forêt, heureux d'en être quitte à si bon marché. Vers 4 heures, il attendait son maître, embusqué sur la lisière du taillis, à portée de fusil de la chaumière des Brettes. Il fit son rapport. Madame de Frézolles était sortie avec sa fille, celle-ci poussant celle-là dans la fameuse voiture. « Tout va bien, » fit le marquis. « Venez avec moi et notez exactement ce que je vais dire. » Tous deux alors sortirent en rase campagne et se montrèrent devant la maisonnette dont Claudine leur ouvrit les portes à la première sommation en reconnaissant les couleurs de Fonlus. Même elle accompagna les nouveaux venus dans le jardin et prit une part active à la conférence qui se termina par des ordres passablement compliqués que Guignard nota sur son carnet. Depuis des mois, le marquis n'avait paru s'intéresser autant à l'existence. Quand tout fut arrêté, le garde allongea ses jambes dans la direction de Melun, où il avait plus d'une mission à remplir le soir même. La veuve du brigadier regagna sa cuisine. Bertrand remonta sur le lion, qu'on avait abandonné à lui-même, cette fois, comme le bidet d'un médecin de campagne, et les yeux fixés sur le sable mouvant, il suivit en souriant d'aise la voie laissée par deux pieds mignons entre la trace des roues à peine marquées. Il aperçut bientôt les deux personnes qu'il cherchait, arrêtées sous un chêne, à quelque distance du point de leur première rencontre. Madame de Frézolles tenait un livre qu'elle lisait tout bas. Sur la mousse, à 3 pas en arrière, Suzanne était assise, un coude sur son genou, le menton dans sa main, les yeux et les oreilles tendus vers une direction qui ressemblait fort à celle du château de Fonlus. Avec sa robe blanche et la masse un peu tombante de sa chevelure, que le chapeau jeté à ses pieds ne cachait plus, on l'aurait prise pour une nymphe guettant l'écho lointain des solitudes. Au bruit sec des glands écrasés sous les fers du lion, elle se retourna vivement, les joues nacrées de cette pâleur ondoyante qui accompagnait chez elle la moindre émotion. « Vous m'avez fait peur, » dit-elle, comme si elle eût senti le besoin d'expliquer son trouble. Le jeune homme s'était découvert. Il répondit en adoucissant encore sa voix, naturellement très sympathique. « Je croyais que mon cheval et moi composions l'ensemble le moins effrayant qui se peut voir. »« Oui, mais vous venez par où on ne vous attend pas, c'est-à-dire par un chemin qui n'est pas celui de Fonlus. Et puis vous chevauchez silencieusement, comme un cavalier fantôme. » Bertrand mit pied à terre et dit à Madame de Frézolles, tout en lui baisant la main, « S'il vous plaît, madame, veuillez constater, dire à mademoiselle votre fille, que je suis un être palpable et réel. Une autre fois, je me ferai précéder dans mes promenades par un écuyer sonnant du corps. »« Plutôt ciel, » répliqua Suzanne, « je suis comme Dona Sol. C'est grande pitié d'avoir sa demeure au fond d'un bois où jamais la trompe ne résonne. » Fonlus n'eut pas l'air d'entendre. Il attachait à une branche le lion, qui ce jour-là portait un licol de chasse sous sa bride, signe que la halte était prévue. L'opération faite, il vint s'asseoir sur une grosse racine, tout près de la plus âgée des deux femmes, et lui parla de sa lecture. La malheureuse lisait un volume de... Mais n'offensons personne. Bertrand témoigna sa respectueuse condoléance à la lectrice. Chez moi, répondit-elle, je cultive des auteurs plus sérieux, et j'ai du temps pour cela. Mais quand je cours vos bois, je me permets un roman par-ci par-là, et le cabinet de lecture des Brettes n'est pas riche en nouveautés. La conversation s'engagea sur ce pied d'aisance entre le marquis et la mère de Suzanne. Celle-ci, laissée à l'écart en apparence, avait repris sa pose de muse rêveuse et s'étonnait du plaisir que cet homme jeune, riche, élégant, habitué sans doute à des interlocutrices plus amusantes, prenait ou semblait prendre à l'entretien d'une pauvre infirme. Au fond du cœur, elle y trouvait un mérite vraiment digne de reconnaissance, car elle ignorait combien la vie de cet inconnu manquait d'épanchement et de la gaieté de son âge. Au bout d'une heure, Bertrand se leva et prit congé. Il n'avait pas dit trois phrases à Mademoiselle de Frézolles, et pourtant il avait, pour toujours, incrusté son nom dans les pensées de cet enfant dont le cœur ne contenait que des pages blanches. Quant à lui, son âme impressionnable débordait tout à la fois d'une pitié émue jusqu'à la tendresse et d'une joie mal définie. Jamais à ce point, le malheur et l'isolement d'autrui ne l'avaient touché d'une saine amertume, et pour la première fois, il sentait qu'il n'était plus seul au monde, lui, dont 400 ou 500 personnes disaient, quand il allait au bois, à l'opéra ou bien aux courses, « Voilà Fonlus, mon excellent ami. » Cette nuit-là, il dormit assez mal, mais n'allait pas croire qu'un amoureux souci le tenait éveillé. S'il rêva tout, ce que nul ne peut dire, le nom qui s'échappa de ses lèvres ne fut pas celui de Suzanne, mais probablement celui du garde Guignard. En s'éveillant, tout d'abord, il eut cette pensée. « Mon commissionnaire a-t-il bien rempli sa tâche? Le travail est-il commencé? Que vont dire ces dames quand elles mettront le visage à la fenêtre? Pour voir la surprise qu'elles auront, je donnerai... » Au lieu d'articuler un chiffre, il soupira, ce qui était de la haute prudence, car il n'aurait pu donner beaucoup à cette heure pour payer n'importe quelle jouissance, même la plus innocente. Il eut toutes les peines du monde à tenir en place le reste de la matinée et la moitié de l'après-midi. La marquise, après déjeuner, voulut ramener la conversation sur Flora. Peut-être une démarche adroite pouvait mettre au compte de la délicatesse ou de la timidité la réserve un peu trop grande que le jeune homme avait gardée. Mais Bertrand se fâcha tout de bon, déclarant qu'il n'avait nulle envie de se voir présenter à sa future, quelle qu'elle fût, sous les traits d'un imbécile. « Quand une femme me plaît, ajouta-t-il en frisant sa moustache, pas des besoins qu'on me souffle ma leçon pour le lui dire. « Mon fils, dit la marquise, vous prenez les façons du jour, et voilà une belle déclaration d'indépendance. « Oh non, fit-il en secouant la tête, ce serait me prétendre plus puissant que je ne suis. « Mais pour Dieu, qu'on ne me demande pas de déclaration d'amour à Flora Kinsley. » Il sortit à cheval, à son heure ordinaire, et gagna les Brettes bon train, ses poches bourrées des meilleurs romans qu'il avait sur la table. En débouchant des bois, il eut tout lieu d'être rassuré, la besogne marchait. Deux charpentiers, sous les ordres de Guignard, achevaient d'entourer d'un grillage protecteur la haie du petit jardin, percée d'autant de brèches que les murs d'une ville emportaient d'assaut. Dans l'intérieur de la clôture, désormais à l'épreuve des maraudeurs à quatre pattes fournis par la forêt, un fleuriste de Melun, renforcé de plusieurs aides, mettait la dernière main à ses plates-bandes et à ses corbeilles. Les allées se nettoyaient, les bordures s'alignaient, les planches de légumes se débarrassaient de leurs chardons en réjouissant les yeux par l'espoir de laitues fraîchement plantées. Bref, le jardin ressemblait fort à un régiment aligné pour la revue au lendemain d'une bataille, quand les morts sont enterrés, les estafilades recousues et les tuniques brossées. La victoire est là, mais que de vide autour du drapeau. Madame de Frézolles surveillait l'opération du fauteuil où elle était assise à l'ombre d'un vieux poirier. D'abord, Fonlus s'était promis d'examiner les choses de loin et de tourner bride sans entrer, laissant ses volumes à Claudine afin de n'avoir pas l'air de quêter des remerciements. Il ne se sentit pas le courage d'exécuter ce beau programme, tant il se faisait une fête du contentement qu'il espérait lire sur le visage de la mère et de la fille. Mais il fut tout d'abord passablement désappointé. Suzanne était invisible, et sa mère, en apercevant Bertrand, laissa voir une reconnaissance quelque peu hautaine. « Cher monsieur, dit-elle, quand le jeune homme eut salué, vous avez les façons du grand siècle. « Oh, madame, » fit-il en riant, « comme il est dommage que ma mère ne puisse pas vous entendre. Elle m'accusait, il n'y a pas 2 heures, d'avoir les idées de mon temps. »«
Vous détournez les chiens, » reprit madame de Frézol,
« mais vous ne m'empêcherez pas de vous dire votre fait, comme une vieille femme de mon âge en a le droit. N'avez-vous pas, dans l'occasion, poussé la galanterie jusqu'au point où elle devient un peu embarrassante pour celles qui la reçoivent ?»
Bertrand, fort ému du tour que prenaient les choses, répondit avec la chaleur d'un accusé qui se justifie
« Mon Dieu, madame, ce que vous daignez prendre pour une galanterie n'est qu'une restitution déguisée. Connaissez-vous la loi sur la responsabilité qui incombe à nous autres, propriétaires de forêts ? J'ai peur que non, mais moi qui la connais, je sais que vous pourriez me faire 6 douzaines de procès, bon an, mal an, et que vous les gagneriez tous, avec dommages intérêts payables en bonnes espèces sonnantes. Vous n'en faites rien, parce que vous êtes une femme, et une femme bien élevée. Est-ce une raison pour que je tire profit de votre délicatesse ? Remarquez, s'il vous plaît, que c'est moi, dès lors, qui reçois un cadeau de vous. Le supporteriez-vous à ma place ? Désormais, je ne serai plus exposé à rougir quand j'aurai l'honneur de vous rencontrer. Voilà tout, et vous ne sauriez m'en vouloir d'être honnête homme et de payer mes dettes. »
« Au moins, monsieur, c'est vrai, tout ce que vous me dites là ?
Faut-il que mon régisseur vous apporte ses livres ? Vous verrez qu'il paye chaque année aux riverains ce qu'il payait à vos devanciers. »
Madame de Frézol, Dieu merci, n'exigea point la production des livres du majestueux Vincent, le bras droit de la marquise. Bertrand comptait bien que cet homme sévère n'entendrait jamais parler des folies qui s'accomplissaient aux brettes, payables sur la cassette particulière du jeune marquis. Dégagée de tout scrupule de fierté, madame de Frézol sembla ravie d'apprendre qu'elle allait enfin voir pousser des fleurs sous ses fenêtres.
« Ce n'est pas pour moi, » corrigea-t-elle, « c'est pour ma fille. À propos, où donc a passé cet enfant, Suzanne ?»«
Maman ?» répondit une voix aux notes veloutées qui parlait derrière un rideau, à longueur de bras de Fonlus.
En même temps, le rideau s'ouvrit et Suzanne parut, jolie et fraîche, comme Marguerite à son balcon. Mais ce fut elle qui vint rejoindre Faust dans le jardin. Sa mère lui demanda « Je ne sais si tu as pu entendre et si tu as compris les explications de notre aimable voisin, qui est un habile avocat lorsqu'il plaide contre lui-même. Il paraît...
Oh, maman !»
fit mademoiselle de Frézol avec une légère contraction de ses sourcils noirs.
« J'ai très bien entendu et très bien compris. Je vous assure que ce n'est pas difficile. »